présidentielle 2022, selon un sondage Ipsos publié fin septembre, 87% des jeunes de moins de 30 ans ont l'intention d'aller voter. Eux, en revanche, ne pourront participer au scrutin national, mais ils seront peut-être, qui sait, nos futurs dirigeants. Eux, ce sont les élèves de prépa Sciences Po du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan, à qui, 5 mois avant le premier tour, nous avons décidé de confier la responsabilité d'interroger, sur différents thèmes, les représentants landais des partis ou mouvements candidats. Pour être, on ne peut plus dans l'actualité, au lendemain de la marche pour le climat et à quelques jours de la fin de la COP26, ce volet inaugural sera, vous l'aurez compris, consacré à l'écologie. En conséquence, notre première invitée sera la conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et d'Europe Écologie Les Verts, Laurence Motoman. Avant de la retrouver, nous allons en quelque sorte planter le décor, dresser un état des lieux de notre planète en partant du dernier rapport, sixième du nom, publié depuis 1988, tous les 6 ans, du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un rapport extrêmement inquiétant concernant le réchauffement climatique, comme vont l'évoquer ici Elsa Denuel et Soisic Braconnier.
Ce sixième rapport du GIEC nous parle des changements climatiques qui se généralisent et s'intensifient. Donc, les activités humaines sont à l'évidence à l'origine du changement climatique, qui rend les phénomènes climatiques et les catastrophes naturelles encore plus catastrophiques, comme les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses, plus fréquentes et plus sévères, et qui favorisent une météo propice aux incendies et causent le réchauffement climatique, la perte d'oxygène et l'acidification des océans. Ce changement climatique, il affecte toutes les régions habitées de la planète, au nord comme au sud. Par exemple, cet été, il y a 50 degrés qui ont été atteints au Canada. Mais les régions d'Europe centrale et de l'Ouest semblent plus touchées, par exemple, pour tout ce qui est canicule, précipitations intenses et sécheresses. Et l'Arctique est la zone la plus critique, parce que les températures augmenteraient jusqu'à 2 à 4 fois plus vite que la tendance mondiale dans cette zone-là. Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes sont donc fortement liés à l'influence humaine. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré comme il était prévu, avant la fin du siècle, ce sera totalement hors de portée.
Alors j'ai envie de vous demander, Elsa et Soisic, le GIEC il travaille sur plusieurs scénarios, combien et lesquels ?
Le GIEC il travaille sur 5 scénarios d'émissions, voilà. Émissions très élevées, émissions moyennes et émissions faibles ou très faibles. Donc d'après le GIEC, les émissions futures entraîneront une hausse du réchauffement, puisqu'elles vont s'ajouter aux émissions passées. La température à la surface du globe continuera d'augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle dans tous les scénarios d'émissions envisagés. Le réchauffement planétaire dépassera les 1,5 degrés et 2 degrés au cours du XXIe siècle. À moins que des réductions importantes des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre n'interviennent dans les prochaines décennies, chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, chaque changement sont amplifiés dans chaque région de la Terre. La fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes augmentent avec le réchauffement. Ça implique par exemple une vague de chaleur qui survenait par le passé une fois tous les 50 ans, surviendra 14 fois plus souvent pour un réchauffement de 2 degrés et 40 fois plus souvent pour un réchauffement de 4 degrés. En France, ça signifie des canicules allant jusqu'à 50 degrés. Les puits carbone, océaniques et terrestres qui normalement capturent les émissions de CO2 seront moins efficaces pour ralentir l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Dans le cas d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré, les vagues de chaleur seront plus nombreuses, les saisons plus chaudes et plus longue, et les saisons froides plus courtes. Avec une hausse de 2 degrés, les chaleurs extrêmes atteindraient plus souvent des seuils de tolérance critiques pour l'agriculture et la santé publique, mettant ces industries en danger.
Cependant, il y a certains changements qui pourraient être ralentis et d'autres arrêtés en limitant le réchauffement. Pour cela, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et des autres gaz à effet de serre. Cela permettrait non seulement de réduire les conséquences du changement climatique, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air. Les scénarios d'émissions très basses ou basses conduisent en quelques années à des effets perceptibles sur les concentrations de gaz à effet de serre et d'aérosols et sur la qualité de l'air. Les différences seraient perceptibles dans un délai d'environ 20 ans. Le GIEC nous le dit, le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant.
Et de celle, naturellement, de nos dirigeants, en premier lieu nous concernant, d'Emmanuel Macron, qui dès l'ouverture de la COP26, exhortait ses homologues à rehausser leurs ambitions climatiques. Hypocrisie, auront répondu de nombreux militants et activistes écologiques. Le chef de l'État et l'écologie, justement. 5 mois avant le premier tour des présidentielles, quel bilan peut-on dresser de son mandat ? A-t-il respecté ses promesses de 2017, comme son ambition de sortir la France des énergies fossiles ? Que penser de la fermeture tardive de la centrale nucléaire de Fessenheim ? Décryptage, toujours en compagnie de nos élèves prépa Sciences Po du lycée Victor Duruy, Léna Piperno et Marthe Kahn.
Donc Fessenheim, c'est une centrale qui a été fermée en 2020. Donc, pour réaliser ce projet, l'État a donné 377 millions d'euros à EDF pour compenser la perte qui aura été créée, pardon. Mais malheureusement, c'était une décision absurde parce que ça a relancé pour compenser des centrales à charbon. Sauf que Macron avait aussi tenu une proposé une promesse en 2017 qui était donc de fermer toutes les centrales à charbon de France d'ici 5 ans. Donc, la promesse ne sera pas tenue.
Et donc, il a souhaité augmenter la part d'énergie renouvelable. Et donc, en tant que candidat, il a promis de doubler la part de l'éolien et du solaire.
Oui, donc il y a eu une grande augmentation budgétaire qui a été mise en place pour réaliser ce projet. Mais la croissance a été trop faible entre 2017 et 2019 pour que ce projet soit mené à bien. Et puis, les citoyens résidant dans les zones prévues, aux environs des zones prévues pour l'éolien, ouais, ont été mécontents. Donc ça, tout ça aussi fait retarder énormément les projets. Mais en revanche, pour sortir la France des énergies fossiles, Macron a mis en place une loi contre l'exploitation et la recherche d'hydrocarbures. Donc cette promesse, en revanche, a été tenue et c'est une bonne chose.
Afin de limiter la consommation d'énergie, Emmanuel Macron a instauré un grand plan de rénovation de toutes les passoires thermiques publiques et privées, avec un budget de 4 milliards d'euros pour les passoires thermiques publiques et la mise en place de la rénovation à 1 euro que tout le monde connaît, ouais, pour les passoires privées. Emmanuel Macron avait aussi promis de fixer comme objectif de recycler 100% du plastique en 2025.
Ce projet est pour 2025, donc il n'est pas encore terminé, mais
Est-ce qu'on est sur la bonne voie ?
Ouais, exactement, on est sur une bonne voie pour qu'il soit mené à bien.
Pour l'agricole cette fois-ci, il a promis d'interdire le glyphosate pour l'utilisation agricole et privée.
Alors, le glyphosate a bien été interdit dans un domaine privé, donc nous par exemple ne pouvons pas se le procurer comme ça.
Mais
en revanche, il y a eu un mécontentement de la part des agriculteurs qui, certains produits, ne pouvaient pas s'en passer. Donc dans les cas où il n'y avait pas d'autres alternatives possibles, il a été autorisé.
Sur le thème de la fiscalité cette fois-ci, Emmanuel Macron a promis d'aligner la fiscalité du diesel avec celle de l'essence, ce qui crée une forte hausse des prix forcément.
Alors ça semble faisable pour 2022, mais encore une fois, il y a du mécontentement qui est créé suite à ces annonces, donc par exemple les Gilets jaunes en 2019.
Et peut-être encore en 2022.
Voilà.
Il a aussi souhaité augmenter la taxe carbone pour la fixer à 100 euros par tonne de CO2 d'ici 2030.
Donc cette taxe carbone, elle avait pour but donc de rediriger les Français vers des alternatives moins polluantes. Donc au départ, cette taxe carbone, elle était à 7 euros par tonne de CO2. Aujourd'hui, on en est à 44,6 euros et le but est qu'elle soit à 100 euros par tonne d'ici 2030. Donc, encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes retarde ça parce qu'ils sont contre forcément l'augmentation des prix. Donc, ça prend du retard et rien n'est moins sûr pour 2030 que ce soit faisable.
Oui, et puis au regard de l'actualité, on peut évidemment nourrir certaines inquiétudes. En tout cas, le chef de l'État et son gouvernement, assurément.
Donc, suite à ces protestations, Emmanuel Macron a lancé donc le grand débat qui a abouti à la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat.
La Convention citoyenne, derrière ce grand mot, qu'est-ce qu'il se cache, Léna, dites-nous.
Alors, c'est une convention qui regroupe 150 citoyens tirés au sort. Elle a rendu 150 propositions le 21 juin 2020. C'est un travail qui a duré 9 mois. Ils se sont réunis 7 fois et ils se sont répartis en 5 groupes autour de 5 thèmes. Se loger, se nourrir, se déplacer, consommer et produire et enfin travailler. Emmanuel Macron avait promis de reprendre ses propositions sans filtre.
Donc pour commencer, il y avait une proposition qui avait été faite, c'est-à-dire de limiter la vitesse à 110 km par heure sur l'autoroute. Donc évidemment, ça a été refusé.
Sur un autre thème, l'interdiction de chauffer les terrasses et des cafés et des restaurants, et ça a été accepté.
Pour continuer dans le domaine de l'automobile, on va dire, un projet était de renforcer le bonus-malus sur les véhicules neufs.
En termes agricoles cette fois-ci, 50% des exploitations devaient être agroécologiques d'ici 2040.
Une autre proposition était d'intensifier le télétravail pour réduire donc les transports.
Oui.
Donc toutes ces propositions ont abouti à la loi climat et résilience qui a été votée le 22 août 2021. Cependant, ça a beaucoup déçu les associations écologiques qui sont mécontentes parce qu'elles considèrent que, contrairement à la promesse d'Emmanuel Macron, elles ont été largement filtrées et édulcorées et elles sont loin des objectifs initiaux.
Le bilan écologique d'Emmanuel Macron, du coup, selon vous, quels adjectifs, comment vous le qualifieriez ? Mitigé par rapport à ses promesses de 2017, une partie du boulot a été fait, peut mieux faire, comme à l'école, assez bien, passable, moyen.
C'est exactement ça, comme vous l'avez dit. C'est mitigé parce qu'il y a des promesses qui ont été tenues, d'autres non, mais certaines n'ont été tenues qu'à moitié. Donc on peut pas vraiment fixer de mots précis pour dire s'il a tenu ses engagements ou non, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais.
Je trouve que c'est mitigé parce qu'il doit faire avec tous les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux. Il ne faut pas que ça augmente trop les prix, il ne faut pas que ça mécontente trop les gens. Il a un électorat à garder quand même. Donc les candidats font beaucoup de promesses, mais en soi, il ne les a pas toutes tenues.
Du coup, face à la dégradation, à l'urgence de la situation sur notre planète, quelles solutions trouver ? Quelles sont aussi les limites ? On va parler de cela en votre compagnie, Valentine Mast. Bonjour.
Bonjour.
Le problème du déplacement, c'est celui que vous souhaitiez d'abord mettre en avant.
Oui, on sait qu'effectivement dans quelques années, la quasi-totalité des véhicules thermiques seront remplacés par de l'électrique. Donc évidemment que l'utilisation même de ces véhicules-là est propre. Mais le problème, il est plus au niveau de la conception, du recyclage ou de la recharge donc de ces véhicules. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la batterie, donc par exemple des voitures électriques, la production de ces batteries nécessite des métaux rares, dont l'extraction est extrêmement polluante. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va presque revenir à délocaliser la pollution en Afrique ou en Asie, par exemple. Le second problème qui va se poser, c'est au niveau de la recharge. On a besoin d'énergie propre pour recharger ces véhicules électriques. On sait actuellement que le parc automobile français est de 40 millions de véhicules, et donc la croissance est de 4% par an. La question qui est posée, c'est donc, est-ce qu'on a la capacité de fournir une énergie suffisante, une énergie propre suffisante pour tous ces véhicules ? Et si c'est le cas, comment on va mettre ça en place ? Donc, ce qui nous mène directement à la problématique de l'autonomie énergétique décarbonée. On considère souvent que l'énergie renouvelable est une énergie propre, alors que bon, c'est pas forcément le cas. Le problème, comme pour les batteries, il est au niveau de la conception et du recyclage des matériaux, du transport des matériaux, etc. Mais surtout au niveau du stockage, on a un réel problème de stockage d'énergie. Donc pour les sources renouvelables qui fournissent de l'électricité, elles sont souvent ces sources-là intermittentes. Donc par exemple, si on a besoin, d'énergie solaire la nuit, on va avoir besoin de stocker cette énergie pour pouvoir la réutiliser plus tard. Et donc, ça va amener à la création, à la conception de batteries qui sont elles-mêmes polluantes. Donc en fait, on va revenir à chaque fois à un cercle vicieux. Donc en fait, soit l'énergie, on est capable, enfin, d'avoir accès à une énergie propre qui pourrait couvrir 100% des besoins, soit peut-être qu'il faudrait se tourner vers éventuellement une sobriété énergétique, en tout cas consommer de moins en moins d'énergie, mais est-ce que c'est vraiment réalisable dans une société qui est habituée à consommer.
Ouais. Un autre exemple, Valentine.
L'alimentation. Ce qui est important de vérifier, c'est pas seulement ce que l'on mange, mais surtout les modes et les lieux de production utilisés. Donc pour limiter notre empreinte carbone au niveau de notre alimentation, on va par exemple, dans la mesure du possible, favoriser les circuits courts et les produits de saison. Donc pour les circuits courts, ça va limiter la pollution, par exemple au niveau des transports. Et pour les fruits et légumes de saison, ça va limiter le chauffage en serre qui produit du CO2. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc en fait, tout ce que l'on peut produire en France, on pourrait ne pas l'importer, mais plutôt diversifier, voire promouvoir la production locale. Donc pour ça, il faudrait changer quelques normes nationales et européennes dans une ère où la délocalisation et l'importation en masse sont à leur apogée, car plus rentables.
Revoir la conception de nos sociétés et leur mode de fonctionnement, ce seront en tout cas les enjeux majeurs pour les années à venir. De cela, nous parlerons très certainement et d'autres sujets encore en compagnie de notre invitée, Laurence Montaumont, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts. Elle sera avec nous d'ici quelques minutes. On marque juste une petite pause musicale et on se retrouve après. Merci beaucoup, Valentine.
MDM. Do York country don't serve your king. No York custom don't speak your tongue. White man can't talk everyone. He don't serve your country, don't serve your king. White man listen to the songs we sing. White man can't talk everything.
Présidentielle 2022, les élèves de prépa Sciences Po du lycée Victor Duruy à Mont-de-Marsan décodent les enjeux du scrutin et questionnent les représentants locaux des mouvements ou partis candidats. Première à essuyer les plâtres, Laurence Motoman, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, Europe Écologie Les Verts. Face à elle, Emma Auguin et Achille Arbeignot, respectivement 16 et 17 ans. Sujets et interrogations, la sortie du nucléaire, l'interdiction de la chasse ou encore, et pour débuter, son soutien indéfectible aux candidats candidat écologiste Yannick Jadot.
Tout d'abord, on voulait commencer cette interview pour vous demander qu'est-ce que c'est d'être conseillère régionale Europe Écologie Les Verts aujourd'hui.
Voilà, mais c'est important que vous me disiez aujourd'hui, parce que c'est différent si on est dans la majorité ou dans l'opposition. Donc pendant 6 ans, j'étais dans la majorité avec différentes responsabilités et je suis maintenant dans l'opposition avec des responsabilités qui sont moindres, mais c'est une autre action politique qui est aussi nécessaire pour la contradiction.
Qu'est-ce qui a changé concrètement depuis, alors qu'on a un petit peu les mêmes personnes quand même qui sont là?
Je peux vous donner un exemple concret qui concerne les Landes, c'est que dans le précédent mandat, j'avais différentes représentations du conseil régional, au syndicat mixte qui gestion milieu naturel des Landes, qui gère les temps d'Orx, l'Arjusan, etc. Et je n'y suis plus. Il y a différents endroits comme ça où j'étais dans les Landes où je ne suis plus. Et à côté de ça, bon, à la région, j'ai quand même des représentations, par exemple interne, avec le comité d'hygiène et de sécurité au travail, parce qu'on a 8500 agents. Donc les conseillers régionaux s'intéressent aussi à ce qui se passe en interne de la collectivité. Puis une chose que je suis vraiment très très contente d'avoir gardée, c'est la commission d'évaluation des politiques publiques, qui est une commission qui regroupe justement les partis majoritaires, les partis minoritaires, et on travaille ensemble sur les dispositifs qu'on met en place.
Emma Auguin, une question.
Moi, après, j'aimerais rebondir sur donc la présidentielle 2022. Et donc, vous avez vu récemment les résultats de la primaire écologiste. Qu'est-ce que vous pensez donc des résultats des deux finalistes, Jadot et Rousseau, et votre avis sur cette primaire?
Alors, je ne sais pas si je vais être très objective parce que je suis rentrée à Europe Écologie en même temps qu'Yannick Jadot, que je soutiens depuis plus de 10 ans. Donc, c'est sûr, d'accord, que mon candidat, c'était, ouais, Yannick Jadot, parce que je pense que c'est plus rassembleur. Et vous voyez, bon, l'état un peu des différents partis de gauche. Et il faut trouver, comme ça a été dit d'ailleurs par un d'entre vous, trouver le moyen de trouver des compromis, mais trouver des feuilles de route communes avec des objectifs communs.
C'est pas que l'affect qui a fait soutenir Yannick Jadot, rassurez-moi. Comment ? Ce n'est pas que l'affect qui vous a fait soutenir Yannick Jadot.
Non, mais c'est aussi le côté pragmatique, justement. Moi, je fais partie des écologistes qui essayent de rassembler le maximum de gens, que ça soit dans les Landes. Et vous imaginez que dans les Landes, c'est pas évident de rassembler les gens sur des problématiques communes. Et je crois que c'est que comme ça. Et d'ailleurs, avec les problématiques climatiques, le GIEC nous l'a dit plus d'une fois, il n'y a qu'en trouvant un moyen de coopérer et d'être solidaire qu'on arrivera à affronter les défis qui sont devant nous. Donc je crois qu'en politique, il faut aussi apprendre à coopérer et non pas être quelque part à ramer dans le mauvais sens, tous dans le mauvais sens, enfin, ou dans des sens différents. C'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi.
Pour continuer sur la présidentielle, donc Yannick Jadot va être pour la première fois à la présidentielle puisqu'il avait cédé sa place la dernière fois pour le candidat socialiste. Comment vous expliquez le contraste entre de très bons résultats aux municipales et aux européennes et de moins bons résultats souvent aux présidentielles, c'est-à-dire que le maximum que les écologistes ont fait aux présidentielles, c'était en 2002, avec Noël Mamère, ils ont fait 5,5%. Est-ce que vous pensez que cette année, en France, il va y avoir une réelle prise de conscience de l'urgence climatique, notamment, comme vous l'avez dit, avec le rapport du GIEC en août? Est-ce que, du coup, vous pensez que plus de gens vont se mobiliser pour voter écologiste et pour voter pour Jadot?
L'écologie politique existe depuis très longtemps, mais on l'a toujours cantonnée à l'environnement, aux petits oiseaux. Donc il a fallu aussi sur cette présidentielle, avec des thèmes régaliens comme la sécurité, il a fallu qu'on montre, en étant en responsabilité dans différentes collectivités, nous étions capables aussi de nous occuper d'autres sujets. Et donc il a fallu tout ce temps, et parallèlement on a eu quand même ce qu'on a annoncé, René Dumont a annoncé dans les années 60-70 qu'on aurait des gros problèmes d'eau. Bon, il y a toute une gestion politique aussi de l'eau, il y a toutes ces choses-là qui prennent, les gens commencent à comprendre parce qu'ils voient. Donc le problème, c'est qu'on est un peu comme Saint Thomas, on voit que ce qu'on croit, mais si on prend trop de retard justement avec des choses qui sont complètement des constats, les scientifiques, en 2002 déjà, vous étiez peut-être pas nés, mais en 2002, Jacques Chirac disait « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Bon, c'était il y a quand même 20 ans. Donc quand on nous dit à chaque COP on va faire ceci, on va faire cela, mais concrètement on essaie toujours de fonctionner de la même façon et de préserver des lobbies et des intérêts qui vont dans un sens qui va à l'inverse, qui est un sens destructeur, on peut pas avancer. C'est pour ça que je crois beaucoup en votre génération, pour mettre les pieds dans le plat aussi.
Alors justement, joindre le geste à la parole, Achille Arménion.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats autour de l'écologie, il y a beaucoup de questions que les gens se posent, parce que c'est quand même quelque chose relativement neuf. Et donc, on voulait savoir si considérez-vous qu'une écologie de droite est-elle possible ? Parce que capitalisme et empreinte carbone ne sont-ils pas liés ?
Faut se dire que l'écologie politique s'est calquée sur les écosystèmes. Donc sur une complémentarité, une transversalité, et les autres politiques ne voient pas cette transversalité qu'il y a. Donc c'est beaucoup des politiques en silo. En tant qu'écologiste politique, on prend en considération notre action, par exemple, qu'on a sur les pesticides, avec celle sur la santé publique. Donc il y a toujours cette logique de voir si on prend une décision d'un côté, est-ce qu'elle est logique de l'autre ? Et on parlait d'Emmanuel Macron tout à l'heure, mais quand on voit qu'au congrès de l'Union pour la conservation de la nature, donc un congrès international au mois de septembre, le président nous dit « nous comprenons et la France sera exemplaire », et puis que 15 jours après, il nous permet des dérogations à la directive cadre oiseaux qui protège les espèces menacées, c'est incohérent. Et il faut vraiment retrouver cette cohérence de la décision politique. Et pas être dans le clientélisme, la démagogie. Mais c'est complètement anormal et irresponsable par rapport à nos concitoyens de leur raconter simplement ce qu'ils ont envie d'entendre pour être élus. Et c'est ce que font de nombreux politiques. C'est pour ça que je vous dis, l'écologie politique, c'est les partis écologistes. Et pas que les partis écologistes, parce qu'au conseil, enfin, aux dernières élections régionales, on a eu un parti de gauche avec nous, qui est la gauche républicaine et socialiste, et différents partis. C'est pas les intérêts de la bourse qui comptent. C'est l'avenir de notre espèce, c'est la solidarité entre les plus fragiles qui vont être les premiers d'ailleurs impactés, qui sont déjà les premiers impactés par les crises climatiques. Donc c'est, je dirais que c'est une politique de droite, je crois que ça serait difficile d'être cohérent avec tous ces éléments-là à prendre en compte.
Jadot a annoncé dans son programme vouloir petit à petit progressivement sortir du nucléaire. Donc d'ici 2030, il a dit qu'il n'aimerait plus de nucléaire en France. Néanmoins, de récentes recherches ont montré que le nucléaire pouvait devenir vert. En utilisant d'autres atomes, par exemple, que l'uranium, c'est-à-dire donc sans produire de déchets radioactifs qui nuisent à l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'on devrait investir dans ce type de recherche plutôt que de se focaliser vers des énergies renouvelables qui peuvent parfois aussi coûter cher et être polluantes dans plein de cas de figure ?
Alors, je vais vous donner un exemple d'énergies qui ne sont pas encore matures, dont vous me dites je ne connaissais pas, donc je vous avoue, j'irai regarder, mais le nucléaire est très très cher. On a un EPR à Flamanville qui a coûté, je ne veux pas dire des chiffres, mais plusieurs milliards. Cet EPR, on n'arrive pas à le vendre à travers le monde. On a des déchets à Bure, etc. Ils sont en train de se battre parce qu'on est en train d'enfouir des déchets. Il y a des déchets de nucléaire dans le gouffre de Cap-Breton. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une trentaine d'années, on a été mettre des déchets nucléaires dans le gouffre de Cap-Breton. Donc, est-ce que pour les générations futures, on a envie de disséminer des déchets ? Alors après, par rapport à cette nouveauté, cette innovation, je ne suis pas contre les innovations, mais les innovations d'énergie renouvelable les plus matures et économiquement fiables, c'est le solaire et l'éolien, le photovoltaïque et l'éolien. Moi, je suis assez aussi pour tourner vers l'autoconsommation des ménages et des collectivités, pour les rendre autonomes au niveau d'une autonomie énergétique. Mais je vois la région, on travaille aussi sur les forces houlomotrices. Donc, mais c'est pas encore mûr. C'est-à-dire que c'est des expérimentations, peut-être comme ce nucléaire écologiste. Alors, je vous avoue que j'ai du mal à dire le mot quand même. Mais donc, les énergies marémotrices, dans 30 ans, si on continue, ça sera peut-être une solution qui sera viable. Comme le photovoltaïque coûtait trop cher, par exemple, vous faisiez venir énormément de choses de l'étranger. Maintenant, on est capable de construire une centrale. Moi, je suis pour les petites centrales, hein, pas les énormes centrales qui détruisent la forêt. Mais on est capable de faire venir ça d'Europe, de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est aussi relocaliser nos moyens d'être autonomes d'un point de vue énergétique.
Mais comment réagissez-vous face à l'annonce de Macron il y a quelques semaines ou quelques jours de la construction de plusieurs petites centrales nucléaires d'ici 2030 ?
Bah écoutez, là, je vous avoue que je préfère ne pas répondre.
D'accord.
Oui, parce que c'est encore de l'enfumage, c'est encore... vous avez quand même vu qu'on est dans les présidentielles, donc oui. Il va être en même temps écologiste, en même temps pour les énergies renouvelables, il va nous mettre des toutes petites centrales nucléaires qui vont faire boum, mais tout doucement. Bon, je crois qu'il y a des démagogies qui, en ce moment, qui sont loin du réel. Et après, je vais voir, mais ça va être encore de l'argent dépensé, peut-être, dans la direction qui n'est pas la bonne.
D'accord. On parle quand même d'un changement de modèle de société. Est-ce que les gens sont prêts à ça ?
Moi, je ne suis pas pour décroître notre bonheur de vivre. Je suis pour faire décroître tout ce qui est en train d'enchaîner, d'entraîner ce système, qui l'emballement du climat ou même la pollution ou l'acidification des océans. ou la biodiversité qui est en péril.
Mais après, moi, ce que je vois personnellement, ou même quand je vais au supermarché, c'est qu'il y a nombre de personnes qui sont habituées à consommer pas cher, de la viande pas chère, qui est fait en élevage intensif, et comment leur dire
qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait, que ça, ils n'ont pas les moyens pour financer ça. Est-ce que l'écologie, c'est pas une écologie de pays riches, en fait? Mais même dans les pays riches, tout le monde n'a pas l'argent pour acheter de la viande de bonne qualité, aller au marché, tout ça, c'est très compliqué pour certaines personnes.
Mais on a un modèle social qu'il va falloir respecter et prolonger. Et donc, on a une proposition de la sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait à des gens, à des familles qui n'ont pas les moyens d'avoir des légumes, etc., ou de la nourriture de qualité, d'avoir comme un chèque alimentation. Et ils pourraient aller voir dans des épiceries avec des petits producteurs, pouvoir utiliser cet argent. Et je pense que c'est ça aussi rééquilibrer. La justice sociale et climatique, c'est ça aussi. Parce que c'est sûr que tout le monde n'a pas les moyens d'aller à l'épicerie bio du coin et puis sortir trois fois plus cher qu'au Netto ou Lidl. Mmh. Mais en tout cas, c'est rééquilibrer. On est en démocratie, on n'est pas dans une dictature. On a moyen politiquement, et c'est là que je trouve que la politique, c'est un bel outil pour changer les choses.
On va, si j'ose dire, recentraliser ou revenir justement sur la région Nouvelle-Aquitaine et sur les Landes. Ouais. Votre prise de position, Emma, vous vouliez rebondir dessus, et votre prise de position lors de la marche des chasseurs le mois dernier.
C'est ça, donc la manifestation du 18 septembre qui a regroupé des milliers de personnes soutenant la chasse et les chasseurs. Vous dites que ça représente peut-être pas forcément la population landaise. Pourquoi pour autant il y a une aussi grande mobilisation, et est-ce que vous pensez que la chasse et les traditions sont incompatibles avec la transition écologique?
Alors, déjà, les traditions, pour moi, les plus belles traditions landaises, c'est la course landaise, c'est la langue qui est pas assez soutenue d'ailleurs, la langue occitane en général.
On va hiérarchiser ou faire un classement.
Non, mais bon, quand on me dit les traditions dans les Landes, c'est la chasse traditionnelle. Non, je crois qu'il y a des plus belles traditions à défendre, surtout quand c'est une chasse traditionnelle qui va à l'encontre du droit européen et qui tue des oiseaux qui sont déjà très très mal en point. Après, par rapport à la représentation des chasseurs, ça n'a pas dû vous échapper que sur les 16 000 qui étaient présents, il y avait beaucoup de bus qui venaient du Lot-et-Garonne, de la Gironde, etc. J'y suis allée à Mont-de-Marsan ce jour-là, je vous avoue qu'heureusement...
Vous étiez déguisée ou...
Non, j'avais ma tête normale. Et donc, j'ai vu qu'il y avait majoritairement que des hommes. Et donc, moi, j'habite dans un petit village, et j'estime que la ruralité, ce n'est pas... C'est pas... 95% de chasseurs ne peuvent pas dire qu'ils sont de la ruralité, puisqu'on est 50% de femmes à vivre dans cette ruralité. Et en plus, dans cette étude de l'IFOP de 2019, il y a très peu de chasseurs qui vivent dans des petites communes. Il y a 23%. Ils n'ont même pas trouvé, pour l'échantillonnage, ils n'ont même pas trouvé assez d'agriculteurs chasseurs pour les mettre dedans. Donc vous pouvez regarder hein, l'étude de l'IFOP de 2019. Et donc voilà, donc ce que je dis, c'est que non, moi je pense qu'on peut être de la ruralité et ne pas être chasseur. Et que très, très peu de femmes sont chasseuses. Et souvent,
oui.
Elles le
oui,
sont.
Oui, mais il doit y avoir des femmes qui doivent être ravies de voir partir leur homme à la chasse parce qu'il revient déjà, il est épanoui, et puis ils ont la baraque pour elle toute seule. Voilà.
Alors après, moi, je voudrais quand même faire un petit. C'est que moi, je suis pas contre les chasses qui sont légales. La chasse à la matole, la chasse aux pentes, l'alouette des champs, etc., ce sont des oiseaux qu'il faut protéger. Après, quand je vois en ce moment les millions de milliers de palombes devant chez moi et que je vois 2-3 coups de fusil avec 2-3 personnes où ils aiment bien être dans leur palombière, ça ne me pose pas de problème. Parce que ce n'est pas un oiseau en voie d'extinction. Quand il y a des régulations de chevreuils, de ragondins, de sangliers à faire, bon, souvent c'est parce qu'on a éradiqué les prédateurs hein, ou artificialisé. Il ne faut pas penser que les écologistes sont contre la chasse. On est pour la raison et la régulation de la chasse. Et donner des passe-droits à des chasseurs, en plus, il paraît qu'ils ne sont pas très nombreux, mais pour une espèce qui est protégée, et qu'on doive après payer des amendes à l'Europe pour ça, je trouve ça anormal. On a besoin d'argent pour autre chose, que ça soit pour l'éducation, etc. On doit des amendes à l'Europe donc pour la qualité des eaux de surface, pour la qualité de l'air, et pour un non-respect de la directive 2008 pour les oiseaux. Donc je pense qu'en tant que politique, on dit qu'il faut respecter la loi. Bah, respectons la loi, là, et puis arrêtons les dérogations.
En conclusion, comment, aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'implanter l'écologie localement?
C'est difficile. Hein. Donc il faut être sur différents... Moi, je fais partie de différentes associations. Je suis partie des Amis de la Terre. Il y a ATTAC, il y a différentes personnes. Donc on essaye de regrouper les gens qui en ont conscience. On espère aussi que les jeunes nous rejoignent. Souvent, je vous avoue que les associatifs commencent un peu à vieillir et qu'on aimerait bien pouvoir faire de l'intérêt générationnel et montrer qu'on est là. Mais dans les Landes, c'est difficile pour l'écologie, mais on a augmenté nos... Je suis assez contente, on a augmenté quand même, on a multiplié par deux nos chiffres là, des régionales dans les Landes. Donc on voit que ça progresse, mais c'est pas comme à Bordeaux, où, c'est plus difficile dans les Landes, oui. C'est pas parce que sur la tradition d'Amatole, où on est compte que les Landes, ça s'arrête pas à ça. On a l'érosion du littoral, on a différentes choses à mettre en place, même au niveau d'un point de vue économique, l'écologie et l'économie, ça va bien de pair. Hein.
Vous évoquiez, pour conclure, vous évoquiez justement les jeunes. Qu'est-ce que vous avez pensé des nôtres, en l'occurrence de ceux qui vous ont interrogé aujourd'hui et présenté leurs travaux, les élèves de Prépa Sciences Po du lycée du Ruy?
Ça me donne de l'espoir parce que je me dis qu'il y a des jeunes pour se préoccuper de ces sujets. Et parce que c'est essentiel d'y aller, quoi. Je suis très contente de vous avoir écouté, de voir que vous intéressez à ce sujet de l'écologie et du dérèglement climatique. Et surtout, allez-y. Il faut toujours garder l'espoir et le sourire et ne pas écouter les personnes qui voudraient vous faire baisser la tête.
Voilà pour ce premier numéro présidentiel 2022, les élèves de prépa Sciences Po du Ruy de Mont-de-Marsan face aux représentants landais des candidats. Prochain numéro début janvier, Elsa de Nuel choisit Braconnier, Léna Piperno, Marthe Kahn, Valentine Mast, Emma Auguin et Achille Arménio interrogeront le député de la 3e circonscription des Landes, conseiller départemental Adour Armagnac et responsable de l'équipe des porte-parole de la candidate socialiste au scrutin présidentiel, Anne Hidalgo. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Boris Vallot. D'ici là, bonne fête à tous et à vous aussi.